Allô, vous pouvez passer commande si vous voulez et puis venir chercher votre panier vendredi.
Ben ça fait un moment que j'en prenais plus, mais finalement, maintenant vu ce qui se passe, c'est pratique. Et puis en plus c'est des produits locaux, donc c'est bien.
Je suis pas vraiment habitué de ce genre de choses en fait. Généralement je fais des courses au marché, mais le marché étant fermé, on a décidé de passer directement par les producteurs.
C'est l'idéal à cette période-là pour tester ce genre de choses et pour s'apercevoir que le supermarché, c'est une chose, mais à proximité de chez soi, il y a tout ce qu'il faut et ça vient directement du producteur.
Bonjour à toutes et tous, je suis enchanté de vous retrouver pour ce nouveau grand format dont on va déguster l'émission qui nourrit le corps et l'esprit. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h en direct sur France Inter pour traiter l'actualité de l'alimentation, pour saliver avec des recettes de saison et pour dialoguer avec vous, amis auditeurs au 01 45 24 7000. Le standard vous est ouvert et ce sont Bianca et Théo qui recueillent vos témoignages. Au menu de ces 2 heures de direct, les circuits courts sont-ils une solution au long cours ? On les a beaucoup évoqués, ces circuits courts pendant le confinement, ils auraient les faveurs des Français, qui multiplient d'ailleurs les solutions innovantes pour consommer autrement. Quel fut l'impact de la crise sur les circuits courts et quel est leur avenir dans l'après-confinement ? On fait le point avec la spécialiste du sujet, la sociologue économiste Yuna Chifolo, qui nous livrera les premières conclusions d'une vaste enquête qu'elle a menée depuis le début de la crise sanitaire. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, plein feu sur une plante de saison, nous percerons les secrets du persil, l'herbe aromatique reine de la cuisine française, avec notre expert du potager Xavier Mathias et la chef cuisinière Stéphanie Lequelec. On retrouvera aussi tout au long de cette émission les fameux affamés dont va déguster, ce sont mes chroniqueurs, Elvira Masson, Arnaud Daguin et notre chroniqueur vin Antoine Gerbel. Et puis on aura aussi le plaisir de retrouver des voix amies de France Inter, Vincent Josse et sa lecture gourmande, Laurent Delmas et sa séance de cinéma mitonnée aux petits oignons et aujourd'hui au persil, Mathieu Conquet pour ses accords mets et musique. Retrouvez nos nombreuses infos pratiques, nos recettes et les podcasts de nos émissions et de nos chroniques sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Selon les premières estimations, les circuits courts auraient représenté jusqu'à 20% de nos achats alimentaires pendant le confinement. Seulement voilà, est-ce qu'une fois la crise derrière nous, les circuits courts vont-ils tourner court ou représentent-ils au contraire une solution au long cours ? On va en débattre dans un instant avec la spécialiste du sujet. Mais tout d'abord, je vous propose en guise d'introduction notre chroniqueur Arnaud Daguin. C'est le chantre de l'agriculture du vivant. Il nous livre sa vision à lui des circuits courts, le coup de lame d'Arnaud Daguin.
France Inter. On va déguster.
Ce dimanche, chers tous, il sera question d'intimité. Et même de rapports intimes. Non, François-Régis, ne m'intimez pas de me taire. Ce n'est pas parce que ces messieurs du marketing ont fait du joli mot intimité le synonyme de partie génitale que je vais me laisser intimider. Je vous parlerai donc de nos rapports intimes avec la bouffe. Non, François-Régis, je n'ai pas dit la touffe, la bouffe. Celle qu'on se tape 3 fois par jour, seul ou à plusieurs, et dont on parle le reste du temps. Quoi de plus intime que de se nourrir ? Amener en soi un peu de l'extérieur, être pénétré par le vivant du monde pour l'ajouter à son vivant intime. On pourrait penser qu'un sujet aussi sensuel, aussi vital, nous occuperait en permanence. Comme vos petites chèvres, François-Régis, qui passent leur journée à choisir quoi brouter. Chouette, une pâquerette, beurk, une ronce. Herbivore, c'est un métier à plein temps. Eh ben nous, on délègue. On a mieux à faire, sans doute, alors on donne mandat à quelques-uns pour nous nourrir tous. C'est ça, la filière agroalimentaire. Aujourd'hui mondialisée, c'est la partouze planétaire. On peut consommer de tout, tout le temps, et qui vient de partout. Comment trouver l'intimité dans une orgie ? Car voyez-vous, François-Régis, choisir sa bouffe, c'est sculpter son monde. Mais pour pouvoir choisir, il faut d'abord connaître. Et oui, il faut que ça fraye dans les filières, que ça cause sur les marchés, que ça jase dans les AMAP. Quelle joie de connaître profondément ce qui nous nourrissent, de découvrir leur vision du monde vivant. Se cultiver sur les cultures, en voilà un défi culturel. Et pour retrouver cette intimité de la bouffe, du sol au gosier, rien de tel que de cuisiner. Se cultiver et cuisiner, serait-ce là le programme du monde d'après ? J'en suis intimement persuadé.
Merci Arnaud Daguin, merci beaucoup. Vous restez en ligne avec nous d'ailleurs parce que vous allez mettre votre grain de sel dans notre conversation. Comme vous d'ailleurs aussi, amis auditeurs, vous pouvez intervenir dans cette émission au 01 45 24 7000. L'intimité avec les producteurs, c'est peut-être aussi ça, la définition des circuits courts. Cette émission a été préparée avec Nadia Chougui, elle est réalisée par Stéphanie Texier avec Mathias Alléon à la technique. C'est aujourd'hui Pierre de Certaine qui nous aide à la coordonner et Djoubaka a repris du service à la programmation musicale. Justement, il nous propose un petit Arthur H, la caissière du super. Bonne journée à l'écoute de France Inter. On est dans l'univers du supermarché, mais on va parler circuit court. Est-ce une solution au long cours? Eh bien, on en débat justement avec Yuna Chifolo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur agronome et sociologue à l'INRA de Montpellier. Vous travaillez depuis 2005 sur les circuits courts et les systèmes alimentaires durables. Et vous avez même signé en 2019, assez récemment, les circuits courts alimentaires entre marché et innovation sociale aux éditions RS. Alors vous avez mené, Yuna Chifolo, pendant toute la période du confinement, une grande enquête dans toute la France que vous avez baptisée Covid-19 et systèmes alimentaires mangés au temps du coronavirus. Et vous nous révélez sur France Inter ce matin les premiers enseignements de cette enquête. Quelle méthodologie tout d'abord avez-vous utilisée pour capter à chaud comme ça l'impact de la crise du coronavirus sur nos façons de consommer?
Alors avec quelques chercheurs, acteurs associatifs et animateurs de développement agricole, alors basés en Bretagne, à Montpellier, là où je suis également. Donc, on a lancé une grande enquête par Internet à l'échelle nationale, dès le premier jour du confinement, pour recueillir des témoignages sur l'impact de la crise, alors pour les consommateurs, mais aussi les producteurs, les commerçants, les distributeurs. On a reçu plus de 600 témoignages de toute la France. Et dans ces témoignages, les gens s'expriment librement, ils racontent ce qu'ils vivent, ce qu'ils observent quand ils font leurs courses ou bien ce qui se passe quand ils vendent leurs produits. L'enquête donc couvre une large gamme de situations et puis des personnes se sont un peu pris au jeu en devenant des sortes de reporters de terrain qui nous envoient des rapports très documentés, ce qui nous permet de savoir ce qui se passe dans plein d'endroits en France.
Donc vous avez, j'imagine, épluché ces nombreux bulletins de partage, on l'a dit, des consommateurs urbains, ruraux, des profils sociaux professionnels très diversifiés. Yuna Chifolo, les médias ont beaucoup mis en avant de nombreuses initiatives qui montreraient le circuit, le succès des circuits courts et notamment à la faveur, avec de gros guillemets, du confinement. Est-ce que vos recherches, vos premières conclusions confirment ce phénomène de succès des circuits courts ?
Oui, alors beaucoup de témoignages vont en ce sens et concernent des consommateurs qui n'achetaient pas forcément dans ces circuits avant la crise. C'est ça qui est important puisque et c'est lié en fait à deux raisons. Alors la première, c'est que les consommateurs vont se tourner vers la vente directe et les produits locaux pour se rassurer.
Oui.
Dans l'idée que les produits ont moins voyagé, ont été moins manipulés. Mettre un visage derrière le produit, ça rassure et on avait déjà constaté ce phénomène lors de la crise de la vache folle, par exemple. Plus largement, en fait, dans l'histoire, chaque crise sanitaire amène des nouveaux consommateurs vers les circuits courts. Mais la seconde grande raison que révèle l'enquête, c'est que beaucoup de consommateurs aussi veulent soutenir les producteurs de leur territoire.
Ah, solidarité.
Voilà, c'est ça. C'était moins le cas dans les crises précédentes. Et là, c'est un mouvement important. Et la fermeture des marchés, notamment, a renforcé cette tendance.
Mais alors ça, ce sont des raisons qui sont, entre guillemets, très conjoncturelles, liées en fait à la situation de la crise sanitaire et du confinement. Vouloir aider le producteur qui est à 12 kilomètres de chez soi. Ou au contraire, ou aussi effectivement accélérer son accès entre guillemets au circuit court à cause d'une crise sanitaire. Hein, vous l'avez rappelé, c'est vrai que les AMAP par exemple ont été créés au début des années 2000 en pleine vache folle ou juste après en réaction finalement à une crise sanitaire. Est-ce que ça veut dire que ce succès était donc très ponctuel ou ce qui l'a amené à se pérenniser?
Alors, ça reste une question ouverte, hein, au sens où, en effet, là, les circuits courts suscitent un intérêt sans précédent et à chaque crise, alors, on observe un peu la même situation. Donc, amené à se pérenniser, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça amène du nouveau public, une nouvelle clientèle qui n'est pas habituée à ces circuits, qui achetait peu ou pas. Et ça leur permet de découvrir justement ces circuits sur lesquels il y a quand même encore beaucoup d'idées reçues, beaucoup de clichés qui seraient trop chers, pas professionnels. Donc
on va en parler.
C'est aussi ces moments-là où ces circuits sont mis à l'épreuve hein, et que les gens finalement se rendent compte que ça, c'est aussi des circuits intéressants pour s'alimenter bien à des prix intéressants.
Dans ce que vous avez observé, dans les témoignages que vous avez recueillis, quel est le profil sociologique de ces néo-consommateurs, ceux qui sont venus au circuit court pendant le confinement et qui ne les avaient pas expérimentés avant la crise ?
Alors ça peut être justement un peu tout le monde au sens où alors on avait déjà mené finalement une grande enquête nationale en 2013 hein, où on avait vu que les consommateurs en circuit court ça représentait à peu près la moitié de la population française. Donc on était quand même loin déjà de penser que c'était réservé à certaines populations. Ça se distribuait bien dans la population avec chacun ayant un peu un circuit court préféré, hein, donc avec voilà, les AMAP attirant des clients plus jeunes, plus tournés vers, on en reparlera, hein, mais vers cette idée un peu d'opposition, de contestation, hein, de marché mondialisé. Mais les circuits courts, c'est aussi les marchés de plein vent. Il y en a 10 000 en France, avec une population, avec une clientèle constituée de retraités, de jeunes familles. Donc déjà, les circuits courts étaient, il y avait une population assez diverse. La crise, elle ramène en fait, en particulier des gens de classe moyenne, des gens qui vont soit être inquiets et donc vouloir se rassurer, soutenir les producteurs locaux. Donc, ça ramène, en tout cas, une population. Qui ne se limite pas à des gens qui seraient plus éduqués ou plus aisés.
Est-ce que vous percevez aussi dans les motivations de ces consommateurs qui se tournent vers les circuits courts et notamment récemment, une conviction, une motivation écologique, l'idée de réduire le bilan carbone de son alimentation par exemple, ou l'idée de se tourner vers des produits moins polluants, le plus souvent dénués de pesticides ou de produits chimiques?
Alors c'est pas majeur. Autant justement quand on a beaucoup par ça, c'était plutôt il y a quelques mois où on parlait beaucoup de changement climatique, hein, et là en fait il y avait cette idée, et ça avait ramené aussi des gens vers les circuits courts avec cette idée que ces circuits limitent les déplacements. Alors c'est pas si simple que ça, parce que parfois finalement on multiplie des petits déplacements plutôt que de les limiter complètement. Mmh. Donc l'impact écologique, alors si on raisonne seulement en termes de coût carbone, hein, il reste encore à optimiser.
Oui.
Donc là c'est moins mis en avant. C'est vraiment plutôt cette motivation se rassurer, motivation santé, parce qu'on ça permet d'accéder à des produits frais et puis de soutien aux producteurs. On voit en fait dans l'histoire des circuits courts, les motivations elles changent en fonction du contexte. Mmh. On a moins cette motivation écologique aujourd'hui.
Très bien. Alors, on a beaucoup de réactions au standard de France Inter et également sur le bouton intervenir de l'application mobile de France Inter. Et beaucoup de gens nous demandent notamment une définition des circuits courts. Il est vrai qu'on réduit souvent les circuits courts, alors soit aux AMAP, hein, ces fameuses associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, on l'a dit, créées au début des années 2000 à la suite de la crise de la vache folle. On peut parler aussi de circuits courts souvent quand on évoque la vente à la ferme. Hein. On va acheter son fromage, ses œufs, ses légumes chez un maraîcher ou un éleveur. Elle est beaucoup plus large que ça, la définition, le périmètre des circuits courts. Est-ce que vous pouvez nous en donner une définition, et existe-t-il une définition un peu officielle, réglementaire ou juridique?
Oui, alors en France, il y a une définition officielle depuis 2009. C'est issu d'un groupe de travail qui avait été mis en place par Michel Barnier, qui était ministre de l'Agriculture à l'époque. Et c'est d'ailleurs un des seuls pays au monde où il y a une définition de ces circuits. Et la définition, c'est un intermédiaire maximum entre producteurs et consommateurs. Sachant que cet intermédiaire, ça peut être un revendeur sur un marché de plein vent, ça peut être un petit commerçant, ça peut être un boucher, ou ça peut aussi être un supermarché.
Mmh. Donc cela signifie que dans circuit court, il y a cette idée qu'il y a au minimum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Quel peut être cet intermédiaire d'ailleurs ?
Ben cet intermédiaire, c'est ça, ça peut être justement
parfois il y en a pas du tout.
Y compris un supermarché, enfin ça peut être un commerçant qui est intermédiaire, donc entre producteurs et consommateurs, ça peut être des bouchers, des boulangers qui s'approvisionnent localement et directement pour leurs matières premières auprès de producteurs de leur région.
Donc cela veut dire qu'il n'y a pas forcément une notion d'ancrage local, ou en tout cas il n'y a pas de distance définie. Quand on parle de circuit court, c'est vrai que l'adjectif court, ça fait penser à l'idée qu'il y a une courte distance entre le consommateur et le producteur. Or, cette notion de distance n'est pas réglementée.
Non, cette définition, en effet, elle ne fait pas intervenir la distance. Alors, ce qui peut paraître un peu
paradoxal,
décevant ou paradoxal pour certains, mais en fait, c'était l'idée que, à travers cette, enfin, et quand même cette définition, malgré cette définition, l'idée c'était bien de soutenir les échanges locaux, y compris dans le groupe Barnier où il y avait le groupe de travail mis en place par le ministre. Il y avait ce consensus, hein, de cette idée que c'est quand même les échanges locaux. Il s'agit de rapprocher producteurs et consommateurs d'un même territoire. En fait. Pourquoi ? Parce qu'imposer une distance n'aurait pas eu de sens, dans la mesure où si vous êtes dans la Drôme, où l'agriculture est très diversifiée, vous pouvez manger en circuit court dans un rayon de 30 km, vous pouvez avoir une grande diversité de produits. À Paris, c'est plus difficile. Le circuit court, il se fait plutôt avec la Normandie, avec la Picardie.
Donc les distances sont plus longues.
Voilà, des régions qui sont plus éloignées. Et puis, pareil, pour si je prends les éleveurs de la Creuse, où il y a plus de vaches que d'habitants, le circuit court, il peut pas se limiter au département. Il faut forcément aller un peu plus loin. Donc, c'est l'idée que voilà, la distance, elle est en fonction de l'histoire des territoires, les histoires de spécialisation aussi. Le circuit court peut pas être le même. L'idée, c'est de limiter les distances, mais tout en prenant en compte finalement la façon dont aussi l'agriculture a été construite.
Évidemment, et d'ailleurs le bio est assez bien représenté dans les circuits courts, ou l'agriculture paysanne, hein, en ne se limitant pas évidemment qu'au label bio, qui peut lui aussi avoir ses limites. On va avoir le témoignage dans un instant d'un pays paysan boulanger du côté de Rennes qui est à la tête d'un formidable, alors je sais pas si vous l'appelez drive fermier, mais qui va nous en expliquer le mode d'emploi. Mais juste avant, je voudrais vous poser une question parce qu'il y a beaucoup de réactions à ce sujet. C'est la question du prix dans les circuits courts. Beaucoup de réactions d'auditeurs qui considèrent bien souvent que les produits en circuit court sont plus élitistes, plus coûteux qu'en grande surface. On est un peu Yuna Chifolo face à un paradoxe. Quand ils ont pris de l'essor en France au début des années 2000, les circuits courts avaient un peu, vous le disiez tout à l'heure, une dimension contestataire ou politique. C'était un peu des réactions altermondialistes qui se dressaient contre les marchés alimentaires mondialisés. Aujourd'hui, les circuits courts sont considérés, en tout cas c'est ce qu'on entend dans les témoignages de nos auditeurs de France Inter, par de nombreux Français comme un truc de bobo. Ceux qui ont les moyens de bien manger en y mettant le prix, un peu un truc élitiste. Est-ce que vous pensez qu'on assiste à une gentrification des circuits courts? Et est-ce que c'est forcément plus cher?
Non, alors non. Enfin, oui et non, au sens où... disons que cette image-là, que le circuit court, il est réservé aux bobos parisiens, entretenu par les médias d'ailleurs, hein, donc enfin, en tout cas c'est l'image qu'on projette aujourd'hui, mais la réalité elle est bien plus diverse que ça, quoi. C'est ce que je vous disais, donc on a quand même une population bien plus variée, parce que les circuits courts, les premiers circuits courts, c'est la vente à la ferme, c'est la vente sur les marchés, et là on a une population bien plus
il n'y a pas que les bobos qui font leur marché, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Voilà, et en termes de prix, cette réputation des circuits courts qui pratiqueraient des prix plus élevés et qui ferait qu'en circuit court, ben, notre budget alimentation serait plus important que quand on va faire ses courses en grande surface.
Alors, le prix, c'est important, parce que c'est vrai que, enfin, nous aussi, c'est une question qu'on nous pose beaucoup, puisque certains disent, mais c'est bizarre, on supprime les intermédiaires, on en met moins, et finalement, ça peut être plus cher. Alors... c'est pour ça qu'on fait des observations régulières des prix, parce que on essaie, et on a vu justement que en moyenne, à qualité égale et en respectant la saison, les produits en circuit court sont pas plus chers qu'en grande surface.
Ah.
Mais souvent, en fait, on compare des produits qui n'ont pas la même qualité, que ce soit en termes de goût, de mode de production ou de qualité nutritionnelle. Pas la même origine non plus, et dans le prix d'un produit, en fait, c'est le coût de la main-d'œuvre aussi qui est important. Or, ce coût, il varie selon les pays. Il est, par exemple, beaucoup plus faible en Espagne, si bien qu'une fraise espagnole, elle sera toujours moins chère qu'une fraise française, parce que le coût de la main-d'œuvre intervient beaucoup.
Mais il est vrai qu'il est difficile de comparer deux produits différents.
C'est ça. Il faut, en fait, essayer, en tout cas, de comparer, ne serait-ce qu'avec une origine France, et puis plutôt, on peut pas comparer un bas de gamme de supermarché avec ce qui circule plutôt dans les circuits courts, qui sont plutôt quand même des produits. Il y a aucun intérêt à vendre dans les circuits courts des choses qui sont des produits bas de gamme. Donc, on est quand même en général sur des produits au moins de moyenne gamme, et puis des produits plus frais, récoltés la veille, des variétés plus goûteuses, des races locales. Donc, c'est pas la même agriculture finalement qui se joue derrière. C'est aussi que les circuits courts, c'est plus de petites fermes. C'est des petites fermes qui touchent peu ou pas de subventions. Donc, l'idée, c'est quand même que dans les circuits courts, on se rapproche finalement du vrai prix de l'alimentation.
D'accord. Et,
alors que dans les filières longues, où il y a plus de subventions, où les coûts sont partagés par d'autres, on n'est pas sur le prix, en fait, n'est pas le même, quoi. Il se construit pas pareil.
Eh bien, la question du prix, justement, pratiqué dans les circuits courts, on va poser la question à Olivier Clisson. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes paysan boulanger depuis 13 ans, à Parthenay de Bretagne, au nord-ouest de Rennes. On est dans l'Ille-et-Vilaine et vous cultivez d'ailleurs vos propres biens en biodynamie que vous transformez en pain naturel, au levain, de grande qualité paraît-il. Vous êtes l'un des cofondateurs du collectif Clic des Champs. Alors ça date de 2013. Pouvez-vous nous en expliquer rapidement le mode d'emploi?
Oui. Bon, c'est très simple, hein, c'est un système de vente en ligne, c'est-à-dire que les consommateurs passent leurs commandes jusqu'au lundi soir, et puis ensuite tous les producteurs se retrouvent le jeudi après-midi, on confectionne tous les paniers, et ensuite on les livre le soir dans 9 dépôts au nord-ouest de Rennes, et donc nos consommateurs n'ont plus qu'à venir le chercher, tout est prêt, c'est très rapide. Ouais.
Combien de producteurs et de consommateurs?
Oui, on a à peu près 25 producteurs et consommateurs aujourd'hui pour livrer environ 250 familles toutes les semaines en quasiment tous les produits qu'on peut cultiver en Bretagne, hein, que ce soit les légumes, le pain, la viande, la bière, le miel. On manque un petit peu de fruits en Bretagne, mais bon, pour ça on attend le réchauffement climatique.
Ah. En tout cas, Clique des Champs a été fondée en 2013, vous en êtes l'un des cofondateurs, c'est largement antérieur à la crise sanitaire, mais est-ce que vous avez senti un impact concret de la crise sanitaire et du confinement sur l'attitude de vos consommateurs? Oui. Avez-vous recruté de nouveaux adhérents?
Oui, alors pour nous, ça a été une formidable explosion, quoi. En 3 semaines, depuis le début du confinement, on a multiplié par 2 le nombre de consommateurs et par 3 le chiffre d'affaires, c'est-à-dire que les paniers moyens étaient plus grands, du fait que les gens étaient à la maison. Et puis après, on a arrêté les commandes, hein, parce que nous, on ne pouvait plus fournir au-delà de ça. Bon, ça tombe bien, parce qu'on a plutôt l'image, nous, des abeilles qui doivent s'aimer plutôt que des crapauds qui gonflent, qui gonflent, qui gonflent.
Oui, absolument. Alors, vous restez à taille modeste.
Voilà. Alors, on a pu faire face à ça grâce, en fait, à nos consommateurs. Comme nous sommes une association 1901 qui regroupons à égalité producteurs et consommateurs au sein du conseil d'administration, en fait, nos consommateurs nous donnent beaucoup de coups de main. Et là, ils étaient tous bénévoles. On a eu beaucoup de bénévoles à venir nous aider à fabriquer les paniers. Mmh. Je rappelle que bénévole en latin, ça vient de bénévolum, je le veux bien. Et donc, on est dans une économie associative, en fait, où on est sur un projet de territoire, où les gens avec nous aident à construire notre projet. Nous, on développe nos produits. Et puis eux, ils peuvent en bénéficier à un prix très faible. Et puis on a aussi été voir nos collègues producteurs qui ont subi des pertes, eux, parce qu'il y avait des marchés qui ont fermé, ou bien des collectivités qui ont arrêté du jour au lendemain. Donc c'est pour ça qu'on a pu aussi faire appel à d'autres producteurs pour pouvoir répondre à cette forte demande.
C'est
ça. Par contre, je voudrais rajouter un point.
Allez-y.
Aussi dans le débat, c'est intéressant. Nous, on ne pourra pas répondre au-delà de ça. Si on n'a pas accès au foncier, en fait, notre frein principal, on a beaucoup de gens qui souhaitent s'installer et produire en direct, comme ça, des produits de qualité. En fait, le foncier en France, il est verrouillé et on n'a pas d'accès prioritaire. Et pourtant, il suffirait que les communes usent de leur droit de préemption pour pouvoir donner en priorité les terres qui se libèrent à de l'agriculture nouvelle, de qualité.
Restez avec nous, Olivier Clisson, car là, vous levez une question fondamentale pour l'avenir, justement, des circuits courts et leur pérennisation. Yona Chifolo, est-ce qu'il y a une volonté politique, justement, pour se tourner vers les circuits courts, les encourager, alors ne serait-ce que par des mesures économiques ou fiscales, mais aussi par cette politique foncière, manifestement, car qui dit circuit court dit évidemment producteurs, ils ont besoin de terres. Celles-ci sont bien souvent préemptées pour d'autres projets que de l'agriculture du vivant, entre guillemets. Vous sentez un réveil politique pour aider les circuits courts?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'après après le départ du ministre, hein, Michel Barnier, en fait, le soufflet est un peu retombé, hein, au niveau de l'État, parce que on avait en 2009 justement l'impression d'une grande vague. On parlait déjà d'approvisionnement local, de restauration collective, d'installation, de formation différentes. Bon, on a eu moins de choses après. Mmh. Alors, ces circuits sont revenus dans l'actualité en 2014, hein, à travers ce qui s'appelle les projets alimentaires territoriaux, qui sont inscrits dans la loi d'avenir. Mmh. Alors, c'est des dispositifs locaux qui sont en général gérés par les collectivités. L'idée, c'est de relocaliser l'agriculture, l'alimentation. Il y en a à peu près 30 qui sont reconnus par l'État, beaucoup plus qui sont plus informels encore. Mmh. En fait, c'est surtout ça. C'est surtout les collectivités qui ont repris la main aujourd'hui sur ces circuits, sur le développement de ces circuits. Mais quand même, on voit que c'est plutôt ciblé encore sur l'approvisionnement local de la restauration collective.
Ah oui.
Et peu sur l'installation. Il y a quelques villes qui installent des maraîchers, mais ça reste très symbolique. Et le blocage foncier est vraiment un frein important. Quand une ferme cesse son activité, le foncier part à l'agrandissement d'une autre, parce qu'il faut être encore plus compétitif, et pas, ou beaucoup moins, ou plus rarement en tout cas, à des porteurs de petits projets, quoi.
Mais peut-on imaginer, à l'échelle du territoire national, peut-on imaginer une politique proactive? Peut-on imaginer des initiatives concrètes au-delà de la politique des communes, qui est très diversifiée d'une ville à l'autre?
Oui, c'est bien l'idée que il faut changer. Il faut changer la façon dont on gère aujourd'hui le foncier agricole, puisque il y a des choix aussi politiques derrière, qui vont plutôt en faveur, qui continuent à aller plutôt en faveur des circuits longs des grandes fermes, mm-hmm. et beaucoup moins vers, vers une agriculture de proximité et une alimentation locale.
C'est ce que constate donc aussi Olivier Clisson. Olivier Clisson, une question sur le prix. Elle est très cristallisante, entre guillemets, cette question, voire clivante, car encore une fois, on les a, ces réactions d'auditeurs de France Inter qui considèrent souvent les circuits courts comme un truc élitiste. Quel est le profil sociologique de vos clients à Clique des Champs, dans la région de Rennes? Et pouvez-vous nous donner des éléments de réponse sur cette question du prix, ce que vous pratiquez?
Oui. Eh ben, nous, on avait fait une petite enquête au début où on avait démarré. En fait, sur tous nos produits de base, on était beaucoup moins cher que les supermarchés alentours.
Qu'est-ce que vous appelez produits de base?
Alors, les produits de base, parce que chez nous, on a à la fois du pain, des légumes, de la viande, du fromage. Mm-hmm. Et puis, on a aussi des transformateurs qui vont aller un petit peu plus loin, faire des produits de haut de gamme, des légumes lacto-fermentés, des choses comme ça. Et donc, là, forcément, on monte un petit peu. Et donc, c'était très intéressant. Alors, ce qui joue aussi, c'est que nous, on a une très faible marge parce que nous sommes une association. Et donc, il n'y a qu'une toute petite marge pour faire tourner l'association entre les produits. Les consommateurs, et par conséquent on ne voit pas des marges faramineuses que pratiquent la grande surface par exemple sur les produits bio, et donc tout ça explique qu'on est sur des prix qui sont inférieurs. Et puis il ne faut jamais oublier que quand on parle du prix, oui. en fait on ne prend pas en compte les externalités négatives.
Ah, absolument.
Et moi j'aime bien citer le rapport d'Eosta en 2015 là, qui avait chiffré à 1 euro d'externalité négative pour 1 euro dépensé. Et ça fait quand même 100 milliards par an en France d'externalité négative.
Expliquez-nous.
Sur la pollution de l'eau, de l'air et de l'érosion des sols.
C'est ça, absolument. Et puis la question du prix est une question beaucoup plus globale qui doit prendre en compte évidemment les conditions sociales dans lesquelles est pratiquée cette agriculture. Le coût du travail qui forcément dans une agriculture paysanne n'est pas le même que dans une agriculture intensive ou productiviste.
Eh bien, quand ça vient de l'extérieur, alors les salaires sont les mêmes hein, quand on parle de travailleurs en France. Par contre, quand on importe des produits, effectivement, comme disait tout à l'heure Yuna, d'Espagne ou du Portugal ou d'Europe de l'Est, c'est très inférieur. Alors, sauf si on prend en compte les travailleurs détachés qui viennent de Pologne ou de Roumanie, qui travaillent en Bretagne, dans les abattoirs et autres, qui ont des charges sociales qui sont différentes de ce qui se passe en France. Donc là, il y a une concurrence déloyale, effectivement, entre l'agro-industrie et l'agriculture paysanne.
Et encore une fois, le profil sociologique de vos clients, est-ce que ce sont, allez, pour être caricatural, pour jouer aux journalistes, est-ce que ce sont des Rennais huppés, bobos, ou est-ce que ce sont des classes populaires? À qui vous vous adressez?
Non, alors effectivement, on n'a qu'un seul dépôt sur Rennes, donc à la limite, les bobos de Rennes n'auraient qu'un seul point d'accès à notre réseau. Non, on est sur des tout petits villages, nous, autour de Rennes, au nord-ouest de Rennes, et on a vraiment tout le monde qui vient nous voir. On a beaucoup de gens qui viennent nous voir, qui ont un potager et qui viennent compléter au Clique des Champs en légumes qu'ils n'ont pas pu faire pousser chez eux. Et donc ça touche vraiment tout le monde. Et puis ils nous connaissent, ils nous rencontrent à d'autres moments, soit sur d'autres marchés, soit dans d'autres points de distribution, et ils viennent surtout pour ça, quoi. Donc vraiment, on touche tout le monde. Il y a peut-être la barrière informatique, j'allais dire, hein, pour commander en ligne, qui fait que les personnes âgées sont peut-être moins représentées dans notre groupe de consommateurs.
C'est vrai que là, pour le coup, Internet et la commande en ligne est essentielle, puisque vous appelez Clique des Champs, hein, petite référence, j'imagine, à la Clé des Champs. C'est un très joli nom. Bravo en tout cas et merci pour votre initiative, Olivier Clisson. Merci d'avoir témoigné sur France Inter. On suivra l'évolution de votre Clique des Champs et toutes les informations relatives à ce circuit. Circuits courts sont en ligne sur franceinter.fr à la page On va déguster. Yuna Chifolo, vous restez avec nous évidemment, mais je voudrais vous faire partager des formes innovantes de circuits courts, alors qui ont émergé avant le confinement ou pendant le confinement. C'est une tendance un peu nouvelle que nous décrypte notre journaliste Elvira Masson. Bonjour.
Bonjour François-Régis, bonjour
vous allez
à
bien
tous. Ça va très bien et vous?
Eh bien ça va, vous avez enquêté en quelque sorte sur une nouvelle forme, enfin nouvelle, vous allez nous montrer
pas
que...
Si nouvelle, on va voir.
Mais qui en tout cas en France est en train d'émerger.
Ouais, c'est une forme de circuit court qui s'est pas mal développée ces dernières années en France, c'est le supermarché coopératif et participatif. dont on peut résumer l'esprit ainsi, reprendre en main le contrôle de son alimentation en échange d'un peu de travail. Alors quand je disais que c'est pas tout à fait nouveau, c'est que l'ancêtre est américain et il a plus de 40 ans. C'est le Park Slope Food Co-op qui a été créé à Brooklyn en 73. Alors à l'époque, l'idée était essentiellement de proposer des produits moins chers. Mm-hmm. Ce sont les membres coopérateurs de ce Park Slope Food Co-op, qui étaient bénévoles, qui sont toujours bénévoles, à qui incombent toutes les tâches liées à l'activité de ce supermarché autogéré. C'est vraiment le principe de l'autogestion, de la réception des marchandises en passant par la mise en rayon jusqu'à l'encaissement. C'est ainsi qu'on réduit les coûts salariaux et qu'on peut se permettre de moins marger sur des produits qui sont ainsi proposés 25% moins chers qu'ailleurs.
Ah.
Les bénéfices générés sont réinvestis dans l'entreprise qui se fournit directement auprès de fermes organiques, donc l'équivalent de notre bio, peu ou prou, dans l'État de New York. Pour être membre, il faut s'acquitter d'une somme de départ. C'est pas rien, cette somme au Park Slope Food Co-op, c'est 100 dollars, soit 10 parts d'une valeur de 10 dollars. Quand on souhaite partir de la coop, on récupère la somme engagée et les parts sont dévolues à un nouvel arrivant. C'est vraiment le principe d'une coopérative. Si je vous explique ce fonctionnement en détail, c'est que Park Slope a inspiré la plupart des projets de ce type qui ont émergé en France ces dernières années. Mm-hmm. Je pense notamment à un exemple que je trouve assez formidable. À Colmar, ce sont des paysans, un groupement de maraîchers, arboriculteurs, éleveurs, producteurs de lait, cueilleurs, brasseurs, pisciculteurs, apiculteurs, qui ont carrément court-circuité la grande distribution en rachetant un supermarché Lidl pour le transformer en supermarché paysan. Ça s'appelle Cœur Paysan. Alors évidemment, ce sont pas toujours des paysans qui s'organisent. Le plus souvent, ce sont des consommateurs engagés qui sont membres, souvent de l'économie sociale. Ainsi, à Nantes, depuis 2018, Scopelli est le premier supermarché coopératif de la région nantaise. C'est du bio, du local, et ils assurent une juste rémunération des producteurs. Tout est vertueux, y compris dans la lutte contre le suremballage. Mmh. Et comme toujours, pour pouvoir faire ses courses chez Scopelli, il faut devenir membre coopérateur et consacrer 3 heures par mois à faire tourner la boutique. Mais il y en a plein d'autres. Il y en a à Paris aussi, La Louve, depuis 2011, Super Quinquin à Lille. Ça se développe partout en France et c'est assez enthousiasmant.
Merci beaucoup, Elvira. Vous percevez, Yuna Chifolo, l'émergence, l'essor de ces supermarchés coopératifs et participatifs?
Oui, alors c'est vrai que c'est un mouvement alors récent. Enfin, j'ai un de mes collègues, Grégory Ackermann, donc aussi INRAE, suit ce mouvement en particulier. Donc, c'est plus d'une centaine de projets en France avec différents modèles quand même, avec des formules plutôt type supermarché. On essaie aussi de proposer une offre un peu complète. Et puis, on a aussi des épiceries participatives qui redonnent de la vie dans les villages, qui sont tenues par des consommateurs. Donc, c'est vraiment aussi toute une richesse. Et ce qu'on voit bien, et ce qu'on voit beaucoup pendant la crise, hein, et ça contribue aussi à changer le profil sociologique de ça, c'est tous les groupements d'achat qui se créent entre voisins, entre amis, avec on s'appelle sur WhatsApp, on met un petit mot dans l'ascenseur pour se dire tiens, je connais un producteur, je peux regrouper les commandes, et puis avec des consommateurs qui s'impliquent dans la logistique, qui vont chercher les produits alors qu'ils n'étaient pas du tout, c'est pas des militants de l'alimentation locale, ils n'étaient pas connus pour ça. Mais là, dans ce confinement, on s'est dit qu'on pouvait se donner un rôle aussi, être utile et puis soutenir les producteurs, puis en même temps créer cette solidarité entre voisins. Et donc là, on a vraiment beaucoup, beaucoup de témoignages sur ces groupements d'achats informels, les consommateurs reprennent la main.
Créer comme ça, des initiatives de circonstances. Merci beaucoup, Yuna Chifolo, vous restez avec nous. On voudrait vous faire réagir juste après Grégory Porter, Revival. On donnera aussi la parole à Arnaud Daguin. I try to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle. But I look down, and I'm afraid. But you lift me high. I tried to find you, lost my way, walk in the darkness in search of day. L'avenir des circuits courts comme une façon de consommer autrement. Arnaud Daguin, vous êtes avec nous.
Oui.
Que vous inspire ce débat?
Moi, je pense que il m'inspire deux choses. La première, c'est qu'on vient de parler de circuits courts de façon très, on va dire, contractée, puisqu'on parle des légumes, on parle des fruits, on parle des œufs, des poulets, enfin tout ce qu'on peut acheter comme ça. Mais notre agriculture, c'est pas que ça. Et les circuits longs, ils existent pour de bonnes raisons. Quand on veut une bonne huile de tournesol, eh ben on va pas aller acheter des graines de tournesol avec son moulin à l'huile, faire sa petite huile à la maison. Alors même si tout le monde est devenu boulanger pendant le confinement, ça a été un loisir, un dérivatif pour tout le monde. On l'a bien vu sur tous les réseaux. Tout le monde devient Roland Feuillat, parfait. C'est très bien. Culturellement, c'est impec. Faut pas oublier que dans ce pays, on a une agriculture qui tourne. Et cette agriculture, il faut comprendre pourquoi elle s'est structurée en circuit long à des moments donnés, parce qu'on a besoin de métiers avec des savoir-faire au long de chaînes. Raccourcir les circuits, c'est vachement bien, mais il faut le faire pour de bonnes raisons.
D'accord.
Là, une des bonnes raisons, on l'a entendu tout de suite, c'est d'installer une agriculture qui soit une agriculture de proximité. Mais ça va bien avec le maraîchage, un petit élevage agroforestier, tout ce qui est de cet ordre-là. Mais dans la grande culture, c'est-à-dire dans les protéagineux, dans les oléagineux, dans les céréales, là, c'est une autre musique, hein, et il va falloir qu'on s'en occupe aussi. Alors là, qu'est-ce qui mérite d'être raccourci comme circuit? Il faut voir, et surtout, qu'est-ce qui mérite de ne plus dépendre d'un marché mondial? Il faut le voir aussi.
D'accord.
Et je suis très content que le monsieur qui était au téléphone tout à l'heure nous ait dit que pour 1 euro d'achat aujourd'hui, souvent au supermarché, il y a 1 euro d'externalité négative. Parce que c'est ça, en fait, la clé du truc.
Absolument.
Et c'est là qu'il va falloir qu'on travaille. Et ça, c'est jamais abordé vraiment parce que c'est foncièrement politique et il faut le prendre un jour ou l'autre en main. Voilà ce que je dis.
Merci beaucoup, cher Arnaud Daguin. Yuna Chifolo, il est malheureusement vraiment le temps de conclure. Un dernier petit mot, peut-être sur l'avenir des circuits courts, en une phrase.
Mais Arnaud Daguin a raison. De toute façon, il ne s'agit pas du tout d'opposer circuit court et circuit long, mais au contraire, enfin, ils sont bien complémentaires. Et l'idée, c'est aussi que les circuits courts, parce qu'ils permettent du dialogue, ils permettent aux gens d'apprendre ce qu'il y a derrière un produit. C'est aussi une opportunité pour faire évoluer l'agriculture en général et les circuits longs également. Il y a un enjeu de la transition, hein, d'un modèle agricole, mais on relocalisera pas tout, on mangera pas tout en circuit court. Et c'est pas l'idée d'un repli sur local, défensif, extrémiste. Non, c'est reprendre la main, c'est réorganiser cette complémentarité, parce que l'équilibre il y était pas, il y était plus.
Merci beaucoup, Yuna Chifolo. Désolé, on doit poursuivre, mais en tout cas, merci beaucoup pour cette intervention passionnante. Et je rappelle que vous avez écrit en 2019 Les circuits courts alimentaires entre marché et innovation sociale aux éditions RS. Vous êtes sociologue à l'INRA de Montpellier. Un grand merci. On retrouve notre chroniqueur vin qui nous fait goûter à distance un élixir incroyable.
On va déguster sur France Inter.
Bonjour Antoine Gerbel.
Bonjour François-Régis, bonjour à tous. Alors, cette période de confinement, on a envie de grands espaces, on a envie de sortir, de se déconfiner au vert. Et moi, j'ai trouvé, en fin de compte, dans ma mémoire, parce que je n'ai pas regoûté, mais c'était quand même avant le confinement, une expérience extraordinaire. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que je bois peu. Oui, il y a des liquides alcoolisés que je bois peu, cela existe. En tant que dégustateur de vin, je bois très peu d'alcool, en fin de compte, de gros alcools. J'adore les cognacs, les armagnacs, les vieux calvas dans leurs arômes, mais j'en bois très peu parce que mes papilles, qui sont formatées pour le vin, eh ben ils ont du mal à supporter ce haut degré. Et l'anecdote veut qu'un ami qui distribue du vin à Paris, un jour, me sort une... j'étais attablé avec lui et dans un verre, il me verse un liquide que j'avais, une couleur dont j'avais jamais vu. Un verre électrique presque fluo. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce contenant? Mais qu'est-ce que c'est que cet arôme? Les arômes, c'était magnifique. C'était citronné, c'était vert, c'était pur. Et là, mon ami, grand sourire, me dit, alors, tu reconnais la plante? On était bien évidemment avec une plante. J'étais complètement perdu. Je savais que c'était un arôme que je connaissais, que j'avais au fond du jardin. Et je craque. Il me dit, voilà, c'est de la verveine. J'étais en face d'une magnifique verveine, la verveine du Forez, une liqueur artisanale. Alors la verveine, on la connaît peut-être. Vous avez la verveine du Velay, voilà, qui est assez distribuée. Là, nous sommes chez des petits producteurs. La famille Forissier cultive la terre du Forez depuis 3 générations dans la commune de Bonzon. Alors nous sommes à une vingtaine de kilomètres au nord de Saint-Étienne. Ils sont spécialisés dans les plantes aromatiques. Ils ont choisi de mettre à l'honneur la verveine, qui est la plante aussi régionale typique du Forez. Alors la verveine, je ne vais pas vous faire l'histoire de la verveine. Bon, elle est originaire de la cordillère des Andes. Elle se porte très très bien justement dans ce territoire un petit peu froid et humide des monts du Forez. Alors elle se décline en verveine officinale, en verveine odorante, et la verveine citronnée qu'on connaît tous, celle qu'on a souvent dans nos jardins. Et puis on a cette verveine sauvage. Alors ça, c'est très particulier parce que la famille Forissier remet en avant cette verveine sauvage, qui a la particularité d'être beaucoup moins odorante, mais d'avoir une richesse exceptionnelle. Et cette richesse exceptionnelle, depuis 2004, ils la mettent au service d'une liqueur. Ils font une liqueur. Alors leur liqueur, elle est particulière parce que ce n'est pas une liqueur de distillation, c'est-à-dire qu'on ne met pas, les fruits ou les feuilles dans de l'alcool. On ne fabrique pas un alcool avec ça. En fin de compte, on plonge ces feuilles dans l'alcool, on fait macérer très longtemps, et ça explique en fin de compte la capacité à extraire cette couleur lumineuse incroyable, et surtout ces arômes. Alors moi j'ai bu ça avec un immense plaisir. Ça fait à peine 30 degrés. Quand je dis à peine, c'est qu'on sent très peu l'alcool, c'est très peu sucré, c'est une pureté d'expression que j'ai rarement retrouvée ailleurs. C'est pour ça qu'elle m'a touché énormément.
La verveine du Forez.
Ouais. Alors la particularité, c'est que c'est millésimé.
Oui.
Donc ça me touche beaucoup. Donc vous avez des variations. C'est en bio, il n'y a pas de colorant, il n'y a rien d'ajouté. Donc la couleur évolue. Il y a des petites particules comme dans un jus de fruits naturels. Vous voyez qu'on fait un jus de fruits naturels. Voilà.
Merci.
C'était mon grand coup de cœur. La verveine, vous trouvez toutes les informations sur le site
absolument. Merci beaucoup Antoine. La liqueur à la verveine du Forez, vraiment un élixir exceptionnel que j'ai eu aussi la chance de goûter. Dans la deuxième partie de cette émission, des sensations persillées, on parle persil. Voilà. Les marmites dont va déguster XXL continuent à mijoter jusqu'à 11h. Elvira Masson est toujours en notre compagnie. On retrouvera également tout au long de cette émission la lecture gourmande de Vincent Josse et la séance de cinéma de Laurent Delmas. Et on aborde dans cette deuxième partie d'émission le destin singulier du persil, la reine des herbes aromatiques. On le verra, une herbe très charismatique. Pourquoi vous aimez le persil? Comment vous le cuisinez? Confiez-nous vos tours de main au 01 45 24 7000.
France Inter. François-Régis Gaudry. On va déguster.
De la platine au petit plat, je vous propose comme chaque dimanche les accords mets et musiques de Mathieu Conquet. Bonjour Mathieu.
Bonjour François-Régis, ça va?
Ça va, vous êtes l'une des voix de la musique sur France Inter. Et quand je vous ai parlé persil, vous avez eu l'oreille qui a frisé.
Bah oui, c'est très inspirant le persil, François-Régis, en musique comme en recette, ça peut donner beaucoup de choses. Alors vous vous souvenez, parce que vous avez un goût très sûr, qu'il y avait un bel album de Simon Garfunkel qui s'appelait Parsley. Parsley, ça veut dire le persil.
Ah,
parsley, sage, rosemary and thyme, de la sauge, du romarin, du thym, c'est vraiment un très bel album.
Un vrai bouquet garni.
Voilà, un joli bouquet garni qui était paru en 66. Mais j'avoue, moi, quand j'entends persil ou persil, ça dépend, bah, je pense d'abord à lui.
Eh oui, il a osé, Mathieu Conquet.
Bien sûr, c'est Percy Sledge.
Pourriez-vous épeler Percy, s'il vous plaît, Percy Sledge?
Alors, Percy Sledge, lui, ça vient de Perceval, donc ça s'écrit P-E-R-C-Y. Donc ça a pas grand-chose à voir avec le parsley, mais voilà, c'est un petit jeu de mots, parce que vous m'avez tout de suite dit, mais toi, tu dis persil, et oui, en France, on dit visiblement soit persil, soit persil.
On va voir ça tout à l'heure.
Dans ce cas-là, absolument. Ça sonne un peu comme le chanteur. Alors, avec Marie, ma compagne cuisinière, on voulait vous proposer aujourd'hui deux recettes. Je vais faire très vite, je vous rassure. Avec le persil, ces deux recettes, en fait, c'est un apéro complet.
Oui.
Vous allez voir, il y aura du soleil dans les deux recettes. Il y a une tarte soleil au persil. C'est une tarte à partager qu'on mange à la main. Mmh. Et puis un cocktail avec du persil et tout ça en circuit court. Je commence par le cocktail à boire avec modération. Là, il est un peu tôt pour un cocktail, mais pour ce soir, regardez la recette.
Non, oui, il est un peu tôt, évidemment.
Alors, pour le cocktail, il faut d'abord faire votre sirop. Donc, de l'eau, du sucre dans une casserole, un petit trait de citron, vous faites bouillir et puis vous laissez refroidir. Et une fois que le sirop est froid, on va mixer les feuilles de persil dans le sirop. On va ensuite filtrer et puis réserver au froid on va garder notre petit sirop vert.
En voilà une bonne idée.
Très prononcé.
Un sirop de persil qui pourrait ressembler en fait à un sirop de menthe. Ça en a en tout cas la couleur, mais avec les arômes et les parfums du persil. J'adore.
Exactement. Beaucoup plus foncé. Et puis ensuite, on va l'associer avec une vodka. Alors, circuit court, moi, je vous recommande une vodka de Faronville. Elle vient de Beauce. Elle est produite dans une production familiale. Pauline et Paul-Henri Leluc, ils font ça dans le nord du Loiret, en fait. C'est à 85 km de Paris. Et elle est, 100% à base de pommes de terre. En général, en France, la vodka qu'on produit en France, elle est faite avec des céréales. Et là, c'est complètement patate. Elle est vraiment très bonne. Vous mettez du jus de citron, du sirop de persil et puis un trait d'huile d'olive avant d'agiter, et l'huile, elle va donner un peu de liant et renforcer le côté végétal de ce cocktail vert. Et pour aller avec ça, on va quand même manger une tarte soleil. Je vous renvoie à la vidéo qu'on a faite qui montre toutes les étapes. En résumé, c'est du persil et du fromage frais, un brebis par exemple, qu'on va mixer, on étale entre deux pâtes feuilletées, on découpe en forme de soleil et on fait tourner les rayons. Vous pouvez faire la recette avec les enfants, c'est très marrant à faire. Et puis ensuite, chacun, une fois qu'on l'a mis au four, chacun peut prendre un rayon ou plusieurs rayons du soleil si vous êtes gourmand. Voilà, un feuilleté au persil croustillant qui accompagnera très bien ce cocktail
végétal. Et au moment de la préparation, en fait, les rayons de ce soleil sont un peu torsadés de manière à ce que l'on voit, voit un peu la surface entre les deux pâtes feuilletées. Belle idée.
C'est exactement ça. Vous l'avez bien, je cherchais ce mot.
En tout cas, ça fait très envie. J'espère qu'il y en a une qui est toute chaude à côté de vous.
Oui, bah je la garde pour tout à l'heure.
Et qu'est-ce que vous allez écouter avec ça?
Alors, je précise aussi que pour le persil, on peut aussi faire circuit court. Moi, je trouve avec la ferme Biosron. Donc là, c'est du côté de Beauce, près de Chartres. Il y a un maraîcher qui fait des livraisons régulièrement à Paris. Alors, pour écouter avec cette tarte soleil, il y a un morceau que j'aime beaucoup de Luz Helena Mendoza, une américaine d'origine mexicaine, et son groupe s'appelle Ilabamba. Et le morceau que je vous offre, qui s'appelle Ojos del Sol, les yeux de soleil. Ça va très bien avec la tarte.
Et puis ça va très bien avec la météo du jour, en ce dimanche où le soleil brille un peu partout en France. Merci beaucoup pour ce persil à manger, ce persil à boire et ce soleil à écouter. Un grand merci Mathieu Conquet, et on se retrouve pour d'autres mets et musiques dans les semaines prochaines. Donc, si j'ai bien compris, on est sur Ojos del Sol y a la Bamba.
Por dándome tentación, en tus ojos me desvelo y tus labios me buscan en la oscuridad como oraciones en la noche. Le pido a Dios que me dé felicidad.
Ojos del Sol, les yeux du soleil. Il est 10h19 sur France Inter.
On va déguster. Sur France Inter.
Je refais une ligne de persil. Et vous voyez mon couteau ? Il ne fait pas ciseler. Ciseler, c'est ça. Vous voyez ? Hacher, c'est... Donc, hache une herbe. Pour ne pas l'oxyder, il faut avoir un couteau qui coupe énormément.
Là aussi, c'est une question de musique et d'acoustique. Pierre Sangboyer, un chef parisien ciselant et hachant du persil. Le persil, c'est le menu de cette deuxième heure dont va déguster XXL. Avant d'engager une conversation gourmande avec nos invités, je vous propose, en guise de mise en bouche, une évocation de cette herbe aromatique dans l'œuvre de Marilyn Débiol, qu'on connaît notamment pour avoir reçu le prix Femina dans son roman La Sèche, en 1998. Eh bien, il est question, vous allez le voir, de sèche farcie, de persil, de hachoir et de jus qui gicle. C'est une lecture de Vincent Josse.
Je dispose des ingrédients avec le plaisir de l'écolier qui, le jour de la rentrée, sort de sa trousse son petit matériel flambant neuf. Le lard, environ 150 grammes. Les trois oignons, j'hésite entre les jaunes et les blancs, mais pas longtemps car les blancs sont frais et le blanc ne doit-il pas accompagner comme une traîne la sèche que j'invente. L'ail, une gousse, ai-je écrit, j'en mets deux. La générosité paye parfois en cuisine quand elle n'est pas compulsive. Le persil, souvent je le néglige, quelquefois même je l'oublie. Hormis la couleur, et c'est en vérité déjà beaucoup, il me semblait jusqu'alors ne pas changer grand-chose à ce qu'il venait saupoudrer. Je trouvais son bouquet un peu pâle à côté de celui de la menthe ou de la divine coriandre. Mais ni la menthe ni la coriandre ne le peuvent avantageusement remplacer. Ne le peuvent remplacer tout court. Le persil ne s'impose pas, il ne supplante pas. Il ne magnifie pas même, mais il s'entremet, ce qui en cuisine vaut son pesant d'or. Les entremetteurs ménagent d'imperceptibles ponts entre des ingrédients qui n'ont pas tout à fait l'habitude de se fréquenter, ici peut-être entre le lard qu'on pense plus volontiers terrien et les cheveux iodés. Je coupe grossièrement le lard, les oignons, l'ail, le persil, puis je fourre tout ça ensemble avec le petit tas de tête et des tentacules, et avec mon hachoir je hache. Tant que je peux. Je pourrais utiliser un hachoir électrique, mais je ne suis guère satisfait de la bouillie qui en sort. J'aime en revanche le mouvement que j'imprime au hachoir. Maladroit, cependant, car je ne hache de cette manière qu'en de rares occasions. Mon hachoir, vigoureux comme un croissant de lune, participe de la fête. Il est fort vieux, ses petites poignées en bois sont toutes usées, mais son tranchant est impeccable, puisque je prends soin de le faire régulièrement aiguiser. C'était la marraine de Cendrillon qui, comme elle voulait s'en débarrasser, me l'avait donné bien avant qu'elle ne m'eût fait goûter les sèches farcies. Elle ne méprisait pas quant à elle le matériel électrique, pas plus les hachoirs que les robots et autres presses purées. Il me faut hacher, hacher tant que je peux tout ce qui finit par nous séparer, pour trouver un peu de jus qui gicle, ce jus qui baigne les mots encore à naître, ce jus d'avant les mots, celui qu'on crache au ciel, insolent comme au premier jour lorsque nous étions confinés, la voisine et moi, claquemurés dans nos merveilles.
Au premier jour, lorsque nous étions confinés, étrange coïncidence, avec un texte qui a pourtant été écrit à la fin du XXe siècle, en 1998, c'était la romancière Marilyn Débiol, lue par l'ami Vincent Josse et choisie par Stéphane Solier. On retrouvera d'ailleurs avec plaisir Vincent Josse tout à l'heure à 15h sur les ondes de France Inter pour une rediffusion d'un grand atelier consacré à Jeanne Moreau. Perçons les secrets du persil avec nos invités. Xavier Mathias, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre expert en potager, vous êtes à Chédigny en Indre-et-Loire, dans un magnifique terrain riche d'une grande biodiversité potagère. J'imagine que du persil y pousse.
Oui, oui, bien sûr. Et à propos de littérature, parce que faire le persil, c'était racoler. On aurait pu citer Zola avec c'était la grande retape, le persil au clair soleil.
Absolument.
Le rapprochage des catins illustres.
Ah oula, ah oui carrément. Ah ouais. On va voir que le persil a vraiment marqué la langue française, ça c'est certain. Et nous sommes également en compagnie d'une cuisinière que nous aimons beaucoup, qui a énormément de talent, c'est Stéphanie Lequelec. Bonjour.
Bonjour François-Régis, bonjour à tous.
Chef 2 étoiles Michelin du restaurant La Seine à Paris. Et bonne nouvelle Stéphanie, vous avez repris du service à Paris en mode à emporter, c'est bien ça?
C'est bien ça, depuis 2 semaines le piano s'est rallumé et on cuisine pour nos clients et de nouveaux adeptes aussi.
Et donc c'est à emporter dans tout Paris, ce sont des livraisons de repas.
Exactement, ma carte un petit peu de cuisine familiale et à partager qu'on peut retirer à La Seine ou se faire livrer à Paris et en proche banlieue.
Question piège Stéphanie Lequelec, vous dites persil ou persil?
Alors, je ne dis ni Paris ni cassis, mais je dis persil.
Vous dites persil. On pose la même question à notre maraîcher Xavier Mathias. Persil ou persil ?
Alors, moi, je dis persil de la même façon que je dis pas fusil, mais fusil.
Donc, persil pour Xavier, persil pour Stéphanie, qui a raison. Bah, pour y voir plus clair, j'ai passé un petit coup de fil hier à notre ami linguiste Aurore Vincenti. Alors, Aurore, dit-on persil ou persil ?
On dit les deux, mon capitaine, persil et persil. C'est une question régionale. Dans la plupart des départements, on dira persil. Il n'y a que dans quelques départements, plutôt vers le centre de la France, où on ne prononce pas le L. Mais alors, si vous dites persil, est-ce que vous dites bien nombril, baril, sourcil, et non pas nombril, baril, sourcil ? Parce que théoriquement, on devrait faire preuve de cohérence. Les champions de la cohérence au sein de la francophonie, ils sont tous au Québec. Là-bas, on ne prononce pas le L comme dans outil, fusil et gentil. Mais alors, ce persil, persillé, il entre dans plusieurs expressions plus ou moins désuètes de la langue française. Moi, j'en retiens deux. La première, bah, parce qu'on peut la lire dans Astérix et Obélix, c'est avoir du persil dans les oreilles. En français, ça signifiait avoir une hygiène auriculaire douteuse. Vous savez, c'est une allusion aux poils qui foisonnent dans les oreilles de certains hommes. Désolé, les mecs. Mais chez les irréductibles gaulois, ce sont les Romains qui se collent littéralement du persil dans les oreilles afin de ne pas entendre la voix du barde Assurance Torix. La deuxième expression, vous la connaissez sans doute, dans le jargon des prostituées, aller au persil ou faire le persil, bah, c'est racoler, tapiner. Pourquoi ? On ne sait pas bien, mais on pense qu'on parlait de persil pour parler d'argent, de fric. Vous savez, ça fait penser aussi à l'oseille, aux épinards, deux autres plantes potagères qui donnent leur nom au bifton. Donc tout simplement, aller au persil pour gagner sa vie.
On va déguster. Sur France Inter.
Un savoureux.
Carpe girant si beau, une tête de veau,
c'est le persil dans les narines.
Ce qui lui donne cet air, à la fois doux et fier,
c'est le persil dans les narines.
Le persil a marqué notre langue, c'est ce que nous disait la linguiste Aurore Vincenti. Il n'a pas de persil dans les oreilles, mais dans son potager, c'est Xavier Mathias. Xavier, comment expliquez-vous que le persil soit peut-être bien l'herbe aromatique la plus charismatique du potager et de la cuisine française ? Comment expliquer en d'autres termes ce destin à part ?
C'est assez étrange, puisque c'est une plante qui a toujours tenu une assez jolie part. On l'a dans l'Antiquité romaine. Elle disparaît au Moyen-Âge, mais pas complètement, en fait. Elle est maintenue pour ses énormes vertus en nutriment, ses énormes composés et stalamènes. C'est-à-dire que le persil, faut pas oublier, outre cette saveur assez incroyable et unique, et moi j'ai pas de mots pour dire le goût du persil, c'est quand même de la vitamine C, du fer. Et je pense que c'est ça qui l'a aussi aidé à se maintenir comme ça. Quand au grand siècle, on commence à mettre un petit peu en question toutes ces épices très fortes, le persil, avec sa discrétion, est quand même une saveur assez unique. Hein. Il, encore une fois, à mon avis, il est assez indescriptible. Mais lui, il passe et il se révèle parce qu'il n'emporte pas tout le plat, en fait. Alors voilà, nutriments incroyables, plus une saveur présente sans écraser un plat. Je pense que c'est ça qui explique son succès actuel.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les valeurs nutritionnelles du persil sont tout à fait étonnantes. Vitamine C dans plus que tout autre fruit, plus de fer que dans la viande rouge, plus de calcium dans le lait. En parlant de lait, le persil, cher Xavier, avait aussi un peu une réputation sulfureuse.
Ah bah oui. Alors c'est assez compliqué. En fait, je pense que là, il faudrait demander à des ethnobotanistes vraiment très renseignés. Je pense que cette réputation sulfureuse, elle vient du fait que le persil contre la lactation, c'est tout à fait étonnant. Donc on le faisait sur les animaux, par exemple les chattes à la campagne, etc. Quand malheureusement on devait leur enlever leurs petits, on traitait les tétines avec du persil, ça coupe la lactation. Ce qui explique probablement que, comme c'était les femmes qui faisaient la traite dans les fermes, pour couper la lactation des animaux. On demandait à ce qu'elles récoltent pas. Il y a plein de légendes sur le persil, donc pour les femmes d'interdiction de le semer, ou alors de le semer à reculons. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui tournent. Il avait drôle de parcours quand même, parce que pendant l'Antiquité romaine, on soupçonne de rendre les femmes stériles, et par contre, après, ben, plus tard, 15e, 16e, 17e, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que le persil, il est dans le jardin des paillards, et une réputation vraiment à l'opposé, c'est-à-dire d'être un aphrodisiaque qui aurait la même valeur que le céleri.
Très bien, on en apprend avec vous. Pouvez-vous nous situer botaniquement le persil ? Je crois qu'on est dans la famille des ombellifères, même si on n'a plus tellement le droit de dire ombellifères. Aujourd'hui, le mot qu'il faut employer pour désigner cette grande famille botanique, c'est Apiacée ?
Oui, moi aussi, si on peut s'autoriser à dire ombellifères.
Oui, nous, on s'y autorise.
Déjà, j'ai des ombelles, voilà. Moi, je maintiens ce mot ombellifère. En fait, on en a beaucoup au potager, hein, des ombellifères, les carottes, les panais, et dans les aromatiques, le cerfeuil, la coriandre, etc. Ce qui permet d'apporter des informations souvent, comme le fenouil, le carvix, qui sont des ombellifères aussi, les graines sont parfumées. Et c'est un truc qu'il ne faudrait pas oublier sur le persil, c'est que pour ceux qui ont un jardin, un potager, laissez grainer votre persil, parce que les graines sont vraiment délicieuses, délicieuses.
Un peu comme on pourrait utiliser les graines de coriandre, une fois que la coriandre, l'herbe aromatique est montée en graines, mais il est vrai que je ne connais pas de chef ou je ne connais pas d'usage de graines de persil, alors que celles-ci sont très aromatiques, dites-vous.
Ah oui, oui, vraiment. Et en tout ça, ça nous permet... moi, j'aime bien cette idée, hein, de pas utiliser de mode de conservation, pas de congélateur, pas de pasteurisation, etc. Non, la graine, c'est une réserve sèche déshydratée, c'est fait pour se garder. Donc, on la met dans un petit bocal, à l'obscurité, à l'abri de l'air, et puis voilà, ça nous fait du persil réellement toute l'année. Sans congélation, sans rien du tout. C'est vraiment très, très bon. Surtout si vous avez un potager, ne vous désespérez pas de le voir monter à graines, récoltez-les.
On va donner la parole à notre cuisinière Stéphanie Lequelec. Vous êtes toujours aussi passionnant, cher Xavier, même si la liaison téléphonique est pas extra, pour être assez honnête. Dites-nous, différence entre persil frisé, persil plat, c'est un clivage culinaire, hein, dans la gastronomie. On met d'un côté le persil frisé, qu'on a tendance un peu à mépriser, il faut bien être honnête, parce que peut-être bien parce qu'on l'a souvent retrouvé dans le nez des têtes de veau sur l'étal du boucher, ou peut-être aussi parce que on le voit aussi à côté du citron sur les étals des poissonniers, ce persil frisé. On a plutôt tendance à utiliser le persil plat en cuisine. On va poser la question à Stéphanie. Botaniquement, la différence ?
Alors, c'est une sous-espèce un petit peu différente, mais c'est bien Apium petrosilinum, néanmoins, pour les deux. Voilà, botaniquement, ils sont quand même plus que proches.
Plus que proches. Et ils sont même assez proches aromatiquement, évidemment. Un premier dilemme à trancher, chère Stéphanie. Persil plat ou persil frisé ?
Persil plat, définitivement persil plat, l'arôme n'est pas le même, la texture même de la feuille n'est pas la même, on a quelque chose de beaucoup plus soyeux sur le persil plat, un petit peu râpeux sur le persil frisé qui moi me plaît moins, et puis il a ce petit côté, ouais, presque un peu ringard le persil frisé. Hein.
C'est ça, pourquoi justement ? Parce que a priori ce petit persil comme ça crépue, visiblement
ouais,
en plus il tient un peu mieux
dit,
que le persil plat.
Ouais, c'est pour les raisons que vous avez dit, c'est-à-dire que c'est un petit peu l'image qu'on en a de la poignée de persil du commerçant qui est adorable et qui vous glisse ça dans le sac avec la tête de veau ou avec le poisson. C'est un peu la facilité. Et c'est vrai que une fois qu'on a goûté les deux, le goût parle. Hein, le persil plat n'a rien à voir.
Alors on va voir avec vous, chère Stéphanie, que le persil est à la fois un condiment, mais également un légume. C'est ça qui est tout à fait intriguant. On a vu déjà tout à l'heure avec Mathieu Conquet et sa femme Marie que ça pouvait être un sirop. Deuxième dilemme, haché ou ciselé ?
Alors là, ça dépend de l'utilisation, j'ai envie de vous dire, François-Régis. Si on veut quelque chose d'élégant, respectant un petit peu le produit qu'on va mettre en dessous avec une expression discrète et délicate du persil, j'aurais tendance à dire ciselé. Si on veut quelque chose un petit peu plus végétal, d'un petit peu plus rustique, avec une opulence plus grande de la saveur du persil, alors haché définitivement,
et
parce que le fait de passer comme ça le couteau dessus va permettre de faire éclater un petit peu, sortir le jus du persil.
Rappelez-nous la différence entre ces deux actions culinaires.
Alors, ciseler le geste, et donc on va bien effeuiller chaque feuille de persil, les superposer l'une sur l'autre, et ensuite on va avoir un mouvement de couteau très régulier et très très fin. On va vouloir avoir de fins bâtonnets comme ça de persil. Haché, on va être un petit peu plus rustique. On l'effeuille bien sûr, mais enfin on dispose les feuilles un petit peu comme on veut sur la planche, et puis on y va comme ça, le couteau, on quadrille avec le couteau.
Il y a un geste très fluide dans le ciselage. alors qu'il y a un geste très saccadé dans le hachage.
Exactement. Et puis ciseler une herbe, ciseler le persil en particulier, c'est pour moi c'est un des plus beaux gestes de la cuisine. Il faut une lame avec un tranchant absolument parfait pour pas venir écraser la feuille, mais la caresser comme ça. Il y a même un bruit très significatif quand on vient ciseler une herbe de la lame sur l'herbe.
Je connais votre rigueur concernant justement l'affûtage des couteaux. Chère Stéphanie, dites-moi, quand je vous ai parlé de persil au téléphone, vous avez immédiatement pensé à votre grand-mère.
Tout à fait, parce que moi, ma grand-mère faisait un potage avec le persil, où le persil était vraiment la star et non pas le condiment du potage. Donc, elle faisait suer comme ça dans une cocotte en fonte une petite noix de beurre, un oignon émincé, et on venait y déposer les queues et les feuilles de persil légèrement concassées, une pomme de terre à chair ferme épluchée, taillé petit parce que l'ensemble doit cuire vite. Et puis on venait comme ça mettre un petit peu de bouillon, laisser cuire 20 minutes. Elle mixait une petite noix de crème et on avait comme ça quelque chose de très onctueux, un potage très goûteux, très aromatique et très vert, délicieux à déguster alors chaud, mais aussi frais l'été.
Insolite, comme on ferait finalement un potage de cresson, c'est-à-dire que là le persil se comporte vraiment en légume à part entière.
Complètement, complètement. Il est la star, mais il mérite. Hein, je veux dire, c'est quand même des saveurs aromatiques à la fois très très puissantes et en même temps très délicates et élégantes. Et le persil mérite, à mon sens, d'être une star dans un plat et non pas qu'un condiment.
Oui, ben c'est ça qui est tout à fait intriguant. Question piège, Stéphanie. Le goût du persil. C'est vrai que Xavier Mathias disait tout à l'heure, le goût du persil, bah c'est le goût du persil. Mais s'il fallait essayer de mettre des mots sur la sensation qu'il provoque sous le palais.
Bah, très dur, mais il a pour moi en première bouche ce côté un peu ferreux, c'est-à-dire qu'il contient du fer, mais on pourrait avoir cette note un petit peu de fer le matériau, c'est-à-dire qu'il y a comme ça ce côté très végétal, très puissant, mais pour moi il a des notes de fer, presque des notes aussi parfois, et je crois que c'était dans le cocktail tout à l'heure où on venait souligner le goût du persil avec un filet d'huile d'olive. Je trouve la parallèle intéressante parce qu'il y a ce côté très feuillu d'une huile d'olive vierge extra, très jeune, vous voyez, très.
Et comment expliquez-vous le mariage d'amour qui dure depuis des siècles entre le persil et l'ail pour donner
la persillade?
Pourquoi ils vont aussi bien ces deux-là?
Bah, je pense que d'abord il y a aussi une alliance de texture, c'est-à-dire la persillade, l'ail, on aime quand même. Moi, j'aime la persillade quand c'est pilé au mortier. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je veux pas aller sur quelque chose de haché. Moi, j'aime quand on va venir un petit peu comme un pistou, hein, finalement, éclater les fibres de l'ail, éclater les fibres du persil, et on va avoir quelque chose de beaucoup plus puissant et rond en bouche. Donc, il y a d'abord l'alliance de ces deux textures, et puis la puissance de l'ail, l'élégance du persil. Je dirais que la persillade, c'est un petit peu la botte secrète française pour réveiller des plats qui, à la base, sont un petit peu fadasses au prime abord, des choses un petit peu plates et linéaires. Je pense à l'escargot, voilà. Et
cuisses de grenouille
aussi souvent des textures, les cuisses de grenouille.
Et
évidemment.
Attendez, alors après, le beurre maître d'hôtel.
Le beurre maître d'hôtel, évidemment,
sur une viande,
mais sur un merlan aussi, sur un merlan fricolbert, on viendrait mettre comme ça cette corolle de beurre maître d'hôtel. C'est merveilleux. Bah, c'est la base de la culture gastronomique française.
Hein. On a oublié aussi le foie de veau poêlée. Ma maman me faisait un foie de veau poêlée avec une persillade à la dernière minute comme ça, et puis on déglaçait le foie de veau un peu épais avec une giclée de vinaigre de framboise.
Un petit peu de vinaigre. Eh oui, un petit peu de vinaigre, évidemment. On a eu des mamans assez similaires.
Hein. Oui, absolument. Elle faisait aussi persillade tout simplement sur des beaux haricots verts de printemps, juste au moment du service, un peu de beurre, une petite persillade, et ça réveillait ces haricots sans nuire à leur jolie sucrosité.
Exactement, bah, c'est un peu la magie du persil, on le disait, c'est-à-dire que c'est pas comme, même si j'adore la coriandre, il y a d'autres herbes que j'adore, mais elles ont tendance à prendre souvent le pas. Je pense à l'estragon, je pense à la coriandre, je pense à la tagette, qui sont des herbes qui viennent un petit peu, parfois, si elles sont pas dosées, prendre le dessus. Le persil, non, le persil sait toujours rester à sa place.
Et justement, Stéphanie, deuxième recette après le potage au persil de votre grand-mère, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur franceinter.fr à la page, on va déguster. Bah, évidemment, on n'a pas pensé à la persillade avec les coquillages. C'est la saison des moules. Très bientôt,
moi,
ça commence tout juste. Les praires et la persillade et les fruits de mer, c'est magnifique.
Ben moi j'adore, moi je suis une grande passionnée des produits de la mer et voilà, et je préfère souvent une moule ou une belle praire farcie, même si j'adore les escargots, enfin voilà, ils rentrent dans la saison des moules, vous l'avez souligné. Alors moi je prends un beurre mou, je fais moitié-moitié, beurre doux, moitié beurre demi-sel, une belle gousse d'ail, deux belles gousses d'ail rose écrasées en purée complètement comme je vous l'ai dit, et puis là on va prendre des feuilles de persil, on va prendre une échalote ciselée finement, on va prendre un petit peu de poudre d'amande qu'on va passer 10 minutes comme ça dans un four à 150 degrés. Uh-huh. On va ramener un côté torréfié, on va ramener beaucoup de gourmandise dans ce coquillage grâce à la poudre d'amande. Et aussi, ça va nous aider à former une petite croûte, vous savez, une petite comme ça, comme avec un peu de chapelure qu'on peut rajouter également. Un petit peu de parmesan en poudre léger.
Ah là là.
Piment d'Espelette, zeste de citron râpé. Et alors après, la magie de ça, c'est qu'on met tout dans un bol de mixeur et que ça se débrouille.
Ah, la mixeur autorisée.
La mixeur autorisée, parce que moi, je veux justement avoir une belle pâte d'herbe. Vous voyez, je veux quelque chose de vert, je veux quelque chose de très homogène, qui va être beaucoup plus agréable en dégustation. Et alors après, quelques beaux coquillages choisis, à peine dégorgés pour enlever le sable, bien nettoyés, ouverts au naturel, très important, et très peu cuit. C'est-à-dire, on va simplement laisser 45 secondes, 1 minute, le coquillage s'ouvrir, mais on va le garder encore mi-cuit. Pourquoi ? Parce qu'après, on va venir tartiner ce beurre sur le coquillage et que la fin de cuisson se passe sous le grill du four, 1 minute, pour gratiner comme ça l'ensemble. Et alors là, je peux vous dire qu'avec un petit verre de joli vin blanc, je crois que ça sent l'été.
Et l'avantage du persil, peut-être l'a-t-on compris en écoutant votre recette de potage et de persillade sur des fruits de mer, mais c'est effectivement aussi, et c'est peut-être ce qui peut expliquer son succès, une herbe aromatique qui tient très bien, contrairement par exemple au basilic, à la cuisson. Elle restitue son goût de persil à la cuisson.
Absolument, et c'est même une herbe très intéressante à cuire, c'est-à-dire que souvent, vous l'avez dit, on peut jeter comme ça quelques feuilles de persil cru sur un plat, voilà, c'est délicieux, mais faire tomber ces feuilles, les utiliser comme on utiliserait une belle feuille d'épinard ou une belle feuille de cresson, c'est très intéressant. On peut faire des petites ravioles, on peut faire tout un tas de choses avec, en cuisinant, c'est une herbe qui se cuisine aussi. Donc c'est pour ça que la parallèle avec le légume est intéressante.
Génial. Xavier Mathias.
Oui.
Le persil, vous nous l'avez expliqué, son succès, son engouement remonte au grand siècle, au XVIIe siècle, en gros, en clair, la gastronomie du roi soleil. C'est à cette époque, justement, que la cuisine a tendance à se rafraîchir avec ce que l'on appelait, et ce que les recueils de cuisine de l'époque appellent les fines herbes. C'est le succès du persil, mais également de la ciboulette, de l'oseille, d'autres herbes aromatiques. Comment expliquez-vous l'apparition de ces herbes fraîches dans la cuisine? Est-ce que c'était un signe de modernité?
Oui, clairement, oui. Et d'approvisionnement aussi de qualité, d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est capable de se fournir en feuilles fraîches, ça veut dire qu'on a les bons fournisseurs et qu'on est capable de faire venir souvent à grand frais, hein, quand même, hein, des bouquets quand même extrêmement frais. Alors juste, tiens, pour revenir un peu sur cette espèce de persil plat, persil frisé,
oui.
Si on peut trouver un avantage au persil frisé néanmoins, c'est qu'il se conserve mieux. Voilà, ça, la forme de sa feuille, l'épaisseur de sa feuille explique qu'il se conserve un petit peu mieux que le persil plat, même si sa saveur est différente.
Bah, c'est déjà une très bonne raison. Et puis, un dernier petit mot, Xavier, sur les cousins plus ou moins éloignés du persil dans le registre des herbes aromatiques, qui ont d'ailleurs souvent le surnom de persil.
Alors oui, ça nous montre la popularité d'une espèce quand on la retrouve un petit peu partout. Donc on parlait de la coriandre tout à l'heure. La coriandre, on l'appelle persil chinois, persil arabe, par exemple. Il y a le persil de Macédoine, qui est moins connu maintenant. C'est le masseron qu'on va retrouver endémique, par exemple, sur l'île de Véron, le masseron qui était une des aromatiques favoris des Romains de l'Antiquité. Et que nous, on a un petit peu oublié. Il est vrai qu'il est très, très puissant. On a aussi un persil japonais vivace qu'on appelle le Mitsuba.
Oui.
Donc, ce persil, on va le retrouver un petit peu partout, en fait.
Donc, c'est devenu un terme générique.
Ah oui, oui. Donc ça traduit dès que vous avez, enfin dès que, non j'exagère en disant ça bien sûr, mais assez souvent quand on est très parfumé, une petite ombellifère, on va l'appeler persil quelque chose, en référence à notre fameux persil qu'on retrouve à peu près partout dans la cuisine française. Encore une fois, c'est récent.
Ouais, absolument. Nous sommes ravis d'accueillir un auditeur, c'est Cédric, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez des Hauts-de-France ?
Oui, c'est ça.
Mais on va pas tellement être visiblement dans une recette d'influence lilloise. On va carrément mettre le cap sur l'Amérique du Sud avec vous.
Ouais, tout à fait.
Avec.
On va avec une sauce de chimichurri.
Bravo. Et... définition.
Alors, bah, c'est une sauce qui est beaucoup utilisée en Argentine pour accompagner les asados, donc qui sont ces grands barbecues familiaux que pratiquent beaucoup les Argentins. Et ce sont d'ailleurs mes maestros de tango qui m'ont appris la recette et que j'ai un petit peu adapté à mon goût.
Parce que vous faites du tango?
Oui, tout à fait.
Et vous faites aussi du tango dans votre mortier et dans votre bol pour faire une sauce chimichurri avec les mains?
Eh ben, on essaie.
Alors, bon, évidemment, j'imagine qu'il y a du persil dans vos sauces chimichurri parce que c'est le principe d'une sauce assez relevée avec beaucoup d'herbes fraîches.
Tout à fait. Moi, j'ai de la chance d'avoir un beau jardin et du coup, je n'utilise que des herbes fraîches.
Alors, vous pouvez nous en dire un peu plus sur la confection de votre sauce en une phrase?
Alors, on va prendre un gros bouquet de persil plat.
Oui.
On va l'effeuiller. On va prendre à peu près la moitié de ce qu'on a en persil plat en origan frais de préférence.
Oui.
Trois ou quatre gousses d'ail. On va hacher ça très finement et on va les mettre dans un bol.
Très bien.
Après, on va faire un mélange de vinaigre balsamique et d'une huile neutre.
Ah,
huile
d'accord.
De tournesol.
Ok, pas olive.
Moi, j'utilise une huile neutre.
Mmh. Ou pépin de raisin, alors?
Ou pépin de raisin, éventuellement. Donc, une dose de vinaigre pour une dose d'huile.
Ouais.
Et on va couvrir le mélange d'herbes fraîches avec. On va rajouter une cuillère à café de piment d'Espelette.
Ah, je me disais. Sel. Il fallait un peu de piment.
Allô?
Oui, je me disais qu'il fallait un peu de piment, justement. Je vous entends très bien, Cédric.
Oui, du piment d'Espelette. Ça va quand même relever un petit peu tout ça. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. On va réserver à peu près une heure au frigo. En tout cas, moi, c'est ce que je préfère. Mmh. Et ensuite, on sert ça avec l'assado. Alors, assado... comme un vrai assado argentin, on commence par les saucisses, les viandes rouges et les riz de veau, et on finit par le poulet.
Et c'est ce qu'il y a au menu en ce dimanche ou pas, Cédric, chez vous?
Non, c'est pas prévu pour aujourd'hui.
Merci pour cette magnifique recette de sauce chimichurri, d'origine argentine, pour accompagner les asados et la carne. C'était une super belle recette, et merci de nous l'avoir expliquée de façon très claire. À bientôt, Cédric.
Merci à vous, au revoir.
Merci beaucoup Xavier Mathias pour nous avoir parlé persil. On va se retrouver régulièrement dans l'émission évidemment puisque vous êtes un habitué. Dès qu'il est question de légumes, on vous passe un coup de fil, vous venez en studio nous en parler. Et merci beaucoup Stéphanie. Le persil, on a fait le tour, un dernier petit tour de main, non, c'est bon?
Moi, je pense qu'on a fait le tour, mais de toute façon, les herbes en général dans la cuisine, il faut y aller, il faut en consommer. C'est une merveille, c'est la fraîcheur, c'est les goûts, c'est voilà. Moi, je suis une adepte des herbes en général, donc je ne peux qu'encourager à avoir un petit potager, une petite jardinière sur le balcon et à couper une branche d'herbe fraîche sur n'importe quelle plat, ça vient réveiller.
Et on a toutes les chances de retrouver du persil haché et des herbes fraîches sur les plats que vous cuisinez également à emporter. Le restaurant La Seine. Merci beaucoup Stéphanie Lequelec.
Merci.
Et à très bientôt dans notre émission.
Merci, à très bientôt.
Et si on prenait des nouvelles d'Elvira Masson, qui a à la fois des nourritures spirituelles et terrestres à nous recommander.
On va déguster. Sur France Inter.
Ma chère Elvira, on va commencer par une lecture nourrissante que vous voudriez faire partager à nos auditeurs.
Oui, cette lecture nourrissante, on la doit à Ryoko Sekiguchi.
Ah.
Merveilleuse, hein. Écrivaine, poétesse et traductrice japonaise qui vit en France depuis plus de 20 ans. Elle se passionne pour toutes les pratiques culturelles, à commencer par la cuisine. On lui doit notamment un merveilleux éloge du FAD aux éditions Argol et chez POL, Nagori, sous-titré « La nostalgie de la saison qui s'en va », c'était en 2018. Ce livre qui m'a beaucoup émue vient de paraître en folio, ou plutôt il a paru il y a 2 mois, mais le confinement l'a cantonné au carton. Il vient d'en sortir il y a quelques jours. Nagori, littéralement en japonais, ça veut dire « reste des vagues ». C'est la nostalgie de la séparation, c'est une saison que l'on quitte à regret et qui ne pourra pas revenir à l'identique. Tout en douceur, Ryoko Sekiguchi ébranle un peu de nos certitudes quant à ces saisons dont nous semblons, nous en Occident, affirmer maîtriser les cycles. Nous les invoquons comme si elles étaient gravées dans le marbre du calendrier, comme un temps comptable. Au départ du livre, il y a cette scène. Un soir, attablée au comptoir d'un restaurant où elle a ses habitudes dès qu'elle rentre au Japon, Ryoko Sekiguchi s'émerveille de la finesse de la cuisine qui lui est servie quand arrive un plat de légumes qui lui paraît ne plus être de saison. Elle s'en étonne et le chef lui répond « « Mademoiselle, je suis beaucoup plus âgée que vous et je ne sais pas si je pourrai encore goûter ce légume l'année prochaine. » Ryoko Sekiguchi nous rappelle ainsi avec finesse que le rapport aux produits et aux saisons est hautement symbolique, en France surtout. À ce propos, est-ce que je peux vous lire un petit passage ?
Mais avec plaisir, Elvira.
Les Français me semblent avoir cultivé un rapport particulier à l'été, comme si l'été était plus qu'une saison, une vie à part entière. Une amie arlésienne m'a parlé avec beaucoup de nostalgie de la dernière cueillette des tomates de son jardin en septembre, comme si avec les tomates, c'était les derniers rayons chauds du soleil qui s'en allaient. Ce n'est pas seulement la nature qui procure ces émotions, c'est que nous sommes nous-mêmes plus ouverts, plus disponibles à recevoir la saison. Dans un plat de nagori, nous sommes face à la saison qui nous fait ses adieux ou que nous quittons nous-mêmes et les allers et retours du souvenir se déposent comme des vagues à chaque bouchée.
Ah là là, et dire que Ryoko Sekiguchi est japonaise, elle écrit en français avec une plume
c'est
sensible
incroyable.
Et poétique. Lisez vraiment Nagori chez Paul.
Ah, oui.
Moi j'ai eu la chance d'être dans le jury de Mange-Livre en septembre dernier, un prix littéraire qui a été créé par la journaliste Marie-Laure Fréchet à Lille et nous avons remis le grand prix à Nagori. Et par chance, il vient de sortir en poche, c'est bien ça. Hein.
Mais vous avez tellement bien fait de remettre ce prix, c'est vraiment une merveille. Et la dernière page de ce livre est absolument bouleversante. J'ai choisi de pas vous la lire pour que vous en gardiez le bonheur intact.
Et vous m'avez surtout dit au téléphone que vous arriveriez pas à lire ce passage sans pleurer.
C'est vrai, j'étais très bouleversée.
Je vous propose maintenant un autre combat, car vous n'avez pas qu'un combat littéraire aujourd'hui, Elvira Masson. Évidemment, un combat, vous voulez réhabiliter, en fait, un dessert oublié.
C'est ça. Alors là, on n'est plus du tout dans la cuisine de saison. Hein. On est hors saison, c'est de la pure cuisine de placard. Moi, je milite pour la réhabilitation d'un gâteau qui s'est fait complètement damer le pion dans le registre des desserts réconfortants, voire étouffants, par son frère, on pourrait dire son grand frère, le riz au lait. Je parle évidemment du gâteau de riz, le pauvre.
Oula, il est loin celui-là.
Ouais. Mais oui.
Comme le gâteau de semoule d'ailleurs.
Est-ce que vous avez déjà mangé un gâteau de riz au bistrot?
Eh ben jamais. Moi, c'est chez maman ou ma grand-mère, quoi. Mais il est vrai qu'au restaurant, non, on méprise un peu cette préparation.
Et est-ce que vous trouvez ça normal?
Non. Association.
Alors que ce pauvre gâteau de riz a quand même tout
Pétition.
Le charme du moelleux, voire l'onctuosité du riz au lait, avec en supplément une croûte croustillante et caramélisée. Donc, que demander de mieux? Et c'est en plus une simplicité enfantine, parce que un gâteau de riz, c'est tout simplement un riz au lait auquel on ajoute des œufs et que l'on cuit au four dans un moule nappé de caramel.
C'est un riz au lait raté, ça vous va bien?
Non, le pire, c'est qu'il faut quand même faire effectivement un caramel à sec au fond du moule dans lequel on va verser la préparation. Et que ça, c'est, vous connaissez ma difficulté avec le caramel. Mais j'ai trouvé la solution. Je fais maintenant mes caramels au sucre glace. Et depuis que j'ai découvert ce truc que j'avais découvert chez Frédéric Beau, de l'école de chocolat de Valrhona.
Absolument.
Qui m'avait montré comment on ne ratait plus son caramel, et ben, je ne rate plus de caramel. Donc le principe est tout bête, on fait cuire son riz rond comme on le ferait pour un riz au lait. Moi je le pré-cuis un petit peu à l'eau froide pendant quelques minutes, j'égoutte, je rince, je porte le lait à ébullition avec une gousse de vanille et du sucre, j'ajoute le riz légèrement pré-cuit, riz rond évidemment, hein. On cuit à feu doux en remuant de temps en temps, on cuit je sais plus 30 minutes. Quand le riz a fini sa cuisson de riz au lait, on mélange deux œufs, on bat deux œufs et on ajoute au riz au lait ces deux œufs battus et un peu de crème fraîche. En l'occurrence, j'ai mis 60 ml de crème fraîche pour 200 g de riz rond à 1 litre de lait entier. On ajoute ça à la préparation, on mélange. Au préalable, dans un moule à manquer, on a préparé son caramel à sec. Donc si on est nul en caramel, on fait comme moi avec du sucre glace. On nappe un petit peu les bords du moule. On verse la préparation de riz au lait agrémenté des œufs battus et de la crème. On met un couvercle sur le moule, papier cuisson ou couvercle si on a, et on enfourne. Et on cuit à couvert ainsi à 180 degrés pendant 30 minutes.
La recette
on démoule.
Ouais.
On démoule quand le gâteau est encore tiède, évidemment. Sinon, on démoule pas.
Sinon, ça redevient un riz au lait. Ok.
Et ben voilà.
Pour que ça ait une forme de gâteau, on démoule effectivement en attendant que ça refroidisse un peu. Il me fait très envie ce gâteau.
Et comme à mon goût, il n'y avait pas assez de caramel, j'ai refait une petite sauce au caramel, juste pour la simple joie de pouvoir en verser sur mon gâteau de riz.
Le gâteau de riz, selon Elvira Masson, merci, c'est orgiaque, ça nous fait très envie.
C'est
dessert
la joie,
à base
ce
de
gâteau.
Riz et réhabilitons le gâteau de riz. On va monter une association de défense du gâteau de riz. Je suis bien d'accord avec
vous.
Merci beaucoup,
voilà,
Elvira. Merci. On a beaucoup salivé. Et merci à vous et à très bientôt. Dans un instant, c'est l'ami Laurent Delmas que l'on retrouve pour une petite séance de cinéma gourmand après Old Man de Black Pumas.
Your heart is on your sleeve. May you find
Notre ami Laurent Delmas de l'émission On aura tout vu et sa séance de cinéma gourmand, et ben figurez-vous que notre ami cinéphile relève le défi de percer l'obsession persillée d'un grand réalisateur français. Comment ça va, Laurent ?
Bonjour François-Régis, bonjour à toutes et à tous. Et oui, 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 parce qu'on revient toujours à lui, le cinéaste gourmet,
et oui.
Gourmand, gastronome, le cinéaste qui aimait filmer les scènes de repas autant qu'il aimait lui-même manger dans la vraie vie. Hein ? Alors c'est évidemment de Claude Chabrol dont
Bien
il s'agit.
Sûr.
Ici, bah oui, pas étonnant, alors qu'on retrouve au fil de ces films ce persil, oh je sais plus, dont vous venez de nous prouver l'importance culinaire et gustative. Le persil chez Chabrol, bah oui, c'est dès son deuxième film, dans Les Cousins, en 1959. Tenez, écoutons ensemble cet extrait.
À table,
déjà ?
Bah, qu'est-ce que tu crois ?
C'est prêt !
À table !
J'arrive.
Oh, moi j'ai faim. J'ai faim.
Je me suis brûlé.
Ah. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Des tomates à la provençale.
Ah. Oh. Ah, on se prive de rien, hein, Charles ?
Ça m'a l'air très bon.
Ah. Allez, un bon pour Flo ! Ah, quelle cuisinière !
C'est Jean-Claude Brialy qu'on entend réclamer ces tomates à la provençale dans Les Cousins ?
Mais absolument, parce qu'elles ont été cuisinées par Juliette Ménial. Elles sont donc servies à Brialy et à son copain Gérard Blin. Ces simples tomates à la provençale font les délices de ces étudiants parisiens. Alors, je ne sais si nos auditeurs mesurent bien le risque que je prends ici à évoquer avec vous, François-Régis, les tomates à la provençale.
Oui.
C'est un peu comme parler de macarons avec le fils de Pierre Hermé. Parce que tous les lecteurs de votre livre « Somme, on va déguster la France » savent en effet que la recette des dites tomates est fondée sur un mélange d'ail et de persil, évidemment rehaussé d'un peu de sucre, d'huile et de chapelure, avant de les oublier littéralement au four. Or, la recette que vous donnez ainsi, c'est celle de Madame Denise Sollier-Gaudry, à qui François-Régis... Vous devez la vie et votre maestria culinaire. Bon, allez. Mais revenons à Chabrol.
Bien confite, les tomates.
Pardon, mythique, absolument.
Pas aqueuse.
Mais non, surtout pas. Mais revenons à Chabrol, qui avec ses tomates à la provençale inaugurait donc sa célébration régulière du persil. Bon, je vous évite, par manque de temps, les écrevisses à la nage dans la décade prodigieuse, et j'arrive à la recette persillée suivante, qu'on trouve dans un drôle de film de Chabrol intitulé « Alice et la dernière fugue ». Avec entre autres Sylvia, Emmanuel, Christelle et Charles Vanel. Or cette héroïne se découvre une passion dans la vie avec les omelettes, singulièrement celles préparées à l'ancienne, c'est-à-dire en séparant les blancs des jaunes, évidemment, et en y incorporant le moment venu un mélange de fines herbes, estragon, cerfeuil, ciboulette et, comme il se doit, persil, ingrédient incontournable au sein de ces quatre mousquetaires, vous l'avez largement évoqué dans l'émission François-Régis. Alors, vous imaginez bien qu'avec le gourmand Chabrol, je ne fais ici qu'effleurer la présence du persil dans ses recettes préférées. Mais pour terminer en beauté, permettez-moi d'évoquer l'un des films majeurs de Chabrol, La Cérémonie. Revisitation de l'affaire des sœurs Papin. Jacqueline Bisset prépare pour son mari Jean-Pierre Cassel et ses enfants d'appétissantes moules marinières. Bon, un peu moins bien préparées que celles de Stéphanie Le Quellet, mais quand même, ce soir-là, ils n'écouteront pas Don Giovanni de Mozart, qui leur sera d'une certaine manière fatale au cours d'une autre soirée, nous l'écoutons en ce moment. Non, ils se régalent tout simplement de ces moules dites à la marinière, dans la préparation desquelles on retrouve impérativement le trio que forment l'oignon, l'échalote, et vous vous y attendez, le persil est plat, s'il vous plaît, en l'occurrence. Je crois, François Régis, que le malicieux auteur du boucher et de Que la bête meure n'aurait pas été insensible à cette proposition relevée, persil, Chabrol et cinéma.
Merci, on termine sur cette note chabrolienne au persil. Un grand merci Laurent Delmas et à dimanche prochain.